Et nous voulons continuer dans cet élan de l'Esprit. Nous voulons nous abandonner entièrement entre ses mains, afin qu'il nous parle, afin qu'il ouvre notre oreille, notre écoute spirituelle, et nous permet de recevoir sa pensée, la seule qui puisse donc apporter la grâce à notre vie, la seule qui puisse avoir un impact positif sur nous, la seule qui puisse nous transformer, nous métamorphoser, nous transfigurer en son image et à sa ressemblance. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te remercier pour cette grâce qui a été la nôtre, ô Dieu, de t'exprimer nos sentiments par des chants de louange, par des cantiques d'adoration. Te remercier, Seigneur, pour nous avoir accueillis en ta présence et pour nous avoir donné, ô Dieu, la force, les ressources indispensables dont nous avions besoin pour nous exprimer devant toi, comme nous venons de le faire. Ta parole déclare que toute capacité à nous approcher de toi, à accomplir quoi que ce soit pour ta gloire, nous vient de toi. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Que par ton esprit, tu nous parles maintenant. Que par ton esprit, ô Dieu, tu déposes ta parole dans notre cœur. Que cette parole affine notre conscience et la rende de plus en plus sensible à toi. Que par ta parole, tu nous ouvres les yeux afin que nous voyions les choses comme toi tu les vois. Que ta parole, ô Dieu, nous rende capables, Seigneur, de discerner ce qui vient de toi, Seigneur, de ce qui ne vient pas de toi. Que ta parole nous rende sages à salut, qui nous aide à aller de maturité en maturité, qu'elle contribue à notre croissance, car c'est ce que tu attends de chacun de nous. Bénis ton peuple, ô Dieu, là devant toi incliné, car connaissant la pertinence, la puissance de ta parole, bénis également ton serviteur, Seigneur, afin qu'il ne soit qu'un simple instrument pour la bénédiction de ton peuple. Nous sommes tous, Seigneur, tes brebis. Nous avons besoin, ô Dieu, de rester constamment entre tes mains, afin que tu continues et poursuives l'œuvre de perfectionnement commencée dans chacun de nous. Aide-nous à demeurer dans ta bergerie, alors que, Seigneur, nous nous approchons de ton retour, alors que les choses s'égâtent de plus en plus tout autour de nous, alors que les fondements de certaines sociétés sont sérieusement, Seigneur, ébranlés par toutes sortes de contre-valeurs, par toutes sortes de principes d'inspiration satanique. Alors, ô Dieu, l'heure, Seigneur, est à la séduction. Notre prière est que tu nous gardes fidèles à toi, que tu nous aides à demeurer dans ta bergerie, que nous ne nous laissions pas impressionner par le sensationnel qui accourt, Seigneur, autour de nous. Mais au contraire, que nous recherchons ce qui est utile, que nous recherchons ce qui vient de toi, que nous continuions à voir et à garder nos regards posés sur toi. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais parler ce matin de la valeur du juste. Amener chacun de nous à réaliser que le fait d'appartenir à Christ, d'être en Christ, mes amis, apporte plus qu'une plus-value à ce monde. Voyez-vous? Le fait d'être juste et injuste, injuste, pas injuste, voyez-vous? Eh bien, est vraiment une source de bénédiction pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde, même si, dans la plupart des cas et trop souvent, le monde ne reconnaît pas toujours la valeur de tous ceux qui marchent avec Christ, la valeur de tous ceux qui sont en Christ. Et je crois qu'il est tout à fait juste que nous puissions examiner la parole de Dieu pour voir, à partir de certains exemples, mes amis, la valeur de toute personne qui marche avec Dieu, la valeur pour la société, la valeur pour le monde dans lequel se trouve ce juste-là. Qu'il soit un homme, qu'elle soit une femme en Christ, peu importe. Mais dès lors qu'elle est dans cet état que la parole de Dieu appelle de juste, cet homme ou cette femme est une véritable source de bénédiction. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et lire le psaume 73 ou 73. Nous allons lire dans un premier temps les quatre premiers versets, et puis ensuite nous irons au verset 12 jusqu'au verset 18, et enfin nous terminerons notre lecture par le verset 28. Psaume 73, 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours, je suis frappé. Attention, c'est un juste qui parle, hein? C'est un homme qui marche avec Dieu, hein? Ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. Tous les jours, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Comprendre le bonheur et la prospérité du méchant. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Et enfin, le verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter, de proclamer toutes ses œuvres. Alléluia. La valeur du juste. Nous allons l'examiner ensemble, voir que vous et moi, de par notre présence dans la famille royale du Seigneur, de par notre présence dans son Église, eh bien, nous avons une valeur inestimable. Que les gens le reconnaissent ou pas, une chose est sûre. Eh bien, nous sommes appelés à jouer un rôle fondamental. Et nous le jouons déjà, et dans la plupart des cas, sans que nous en soyons conscients, sans que nous le sachions. C'est pourquoi, de temps à autre, il est important que nous puissions un tout petit peu revenir à la parole de Dieu, afin qu'à sa lumière, nous puissions réaliser le privilège, la grâce qui est donc la nôtre, de par notre position en Dieu. Gloire au Seigneur. Après la Seconde Guerre mondiale, et dans les années 50, l'État d'Israël, sur une loi promulguée par la Knesset, donc le Parlement israélien, avait donc décidé de décerner un prix, d'honorer tous les non-juifs qui s'étaient donc illustrés par leur bravoure en ayant sauvé la vie de certains juifs, en ayant tout fait pour soustraire les juifs aux persécutions nazies. C'était donc au péril de leur vie que certains, que beaucoup de ces hommes et de ces femmes, un peu partout à travers l'Europe, avaient pris le risque de cacher des juifs pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de leurs bourreaux, les nazis. Par leurs exemples exceptionnels, ces hommes et ces femmes, eh bien, ont marqué d'une manière l'histoire d'Israël, l'histoire de la Shoah, et l'État d'Israël avait donc décidé d'honorer ces gens, de leur rendre hommage, de les récompenser par ce titre que nous trouvons, qui est connu désormais, les justes parmi les nations. Et pour prétendre donc à cette distinction, eh bien, il faut remplir certaines conditions, il faut avoir posé des gestes, justes évidemment aux yeux de l'humanité, car ces exemples exceptionnels restent et demeurent des exemples de générosité, d'humanité, des exemples extraordinaires, voyez-vous. Et à partir de ça, eh bien, Israël vous proclame juste parmi les nations. Et généralement, lorsqu'on arrive à la conclusion qu'effectivement la personne a rendu des grands services à la communauté juive en sauvant une, deux, trois personnes d'origine juive, eh bien, on décide alors d'organiser une cérémonie au cours de laquelle on remercie la personne, on lui rend hommage et après tout, on lui remet une médaille, ce qu'on appelle la médaille de juste parmi les nations. Donc, une manière, comme je le disais, pour Israël d'honorer, de rendre hommage à tous ces gens qui se sont illustrés par leur courage extraordinaire, par leur bravoure. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il a fallu que ces gens posent des gestes, voyez-vous, pour qu'ils soient reconnus juste aux yeux d'Israël. Voyez-vous? Donc, il a fallu qu'on fasse quelque chose pour que cela ouvre la porte à certains, à ce titre honorifique, à cette distinction que la médaille de juste parmi les nations. Mais qu'en est-il pour Dieu? L'homme, pour être juste, devra-t-il poser des actes? Devra-t-il, mes amis, se contenter de certaines œuvres? Pas du tout. Aux yeux de Dieu, certes, l'humanité est coupable. Et l'humanité ne peut pas être justifiée sur base de ses œuvres. En d'autres mots, aucun homme ne peut être reconnu juste aux yeux de Dieu simplement parce qu'il aura posé des actes ou il aura accompli des œuvres religieuses. La parole de Dieu est catégorique, mes amis. Aucune œuvre, si noble soit-elle, aucune action, si grande soit-elle, ne peut justifier un homme devant le Créateur. La Bible est claire, tous ont péché, tous sont coupables, et par conséquent, tous sont donc privés de la gloire, de la présence de Dieu. Elle ajoute, alléluia, c'est ça la bonne nouvelle. La Bible ne se contente pas simplement de nous donner le diagnostic moral et spirituel de l'humanité, mais la Bible nous donne aussi la solution en disant, tous sont gratuitement justifiés, non pas par l'appartenance à une dénomination religieuse, non, non pas un accomplissement des œuvres, pas du tout. Tous sont gratuitement justifiés par la foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est donc lui qui est notre justice. La Bible est claire. Savez-vous que la raison de la pratique spirituelle, le fait que l'homme cherche à avoir une religion et à mettre en pratique, eh bien, les œuvres de sa religion, eh bien, le but ultime, c'est d'un jour de paraître juste aux yeux de Dieu. Le fait que l'homme, où qu'il soit, essaye par tous les moyens de faire des choses pour plaire à Dieu, est déjà un argument suffisant de la culpabilité universelle de l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, pour Dieu, il n'y a rien à faire. Vous pouvez nourrir les orphelins toute votre vie. C'est une chose extraordinaire. C'est quelque chose de noble. Et je vous encourage à le faire. Vous pouvez exceller dans les œuvres sociales. C'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs, l'Église doit exceller dans les œuvres sociales. Mais nous ne devrions jamais oublier que rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous faire paraître juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile. Voyez-vous? Il faut que les gens comprennent cela. Que la pratique religieuse, la croyance quelle qu'elle soit, les œuvres religieuses, si nobles soient-elles, si grandes, merveilleuses soient-elles, sont incapables de pouvoir justifier l'homme aux yeux de son Créateur. L'homme est justifié par la foi dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Alléluia. Eh bien, tous ceux qui ont reçu Jésus, et c'est le cas de chacun de nous ce matin, si vous ne l'avez jamais reçu, ne partez pas, ne sortez pas de ce lieu de grâce sans avoir pris la résolution de l'accepter personnellement. Voyez-vous, tous ceux qui ont reçu Jésus sont devenus justes aux yeux du Créateur. Alléluia. Et étant justes, eh bien, le Seigneur les destine à une grande récompense. Une récompense éternelle. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, mais déjà sur cette terre, en attendant que nous recevions cette récompense, que le Seigneur nous destine, mes amis, lisez la parole de Dieu et vous découvrirez que si Dieu nous demande, mes amis, de nous rendre de plus en plus utiles par rapport à lui, si Dieu nous demande d'exceller dans le bien, c'est parce qu'il sait qu'un jour, tout ce que nous faisons, eh bien, nous rapportera de bénéfices substantiels incroyables. Voyez-vous? Une récompense éternelle. Gloire au Seigneur. Mais nous n'avons pas besoin, ou du moins nous ne devons pas simplement vivre avec une espérance de ce qu'un jour nous recevrons une récompense. Mais je voudrais amener chacun de nous à réaliser que le fait déjà d'être une bénédiction pour les autres est déjà en soi une sorte de récompense. Alléluia. Car contribuer au bien-être de l'humanité, être de ceux par qui Dieu accomplit quelque chose sur cette terre, est déjà en soi une récompense extraordinaire. Car le juste, ceux qui sont en Christ, ont de la valeur, non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux de l'humanité. Alléluia. Pour revenir au texte que nous venons de lire, eh bien, nous voyons dans ce passage une description, un portrait de l'homme juste. Voyez-vous, la vie d'un homme qui a choisi de plaire à Dieu. Voyez? Donc, un homme qui a pris la résolution d'aller à contre-courant, de ne pas se conformer à la manière de vivre du monde, voyez-vous, mais de laisser son cœur rester attaché au Seigneur et de se laisser conduire par sa parole. Mais nous y trouvons également, dans ce passage, une description, un portrait, une image de tous ceux qui mènent leur vie indépendamment de la volonté de Dieu, ce que la Bible appelle les insensés ou les méchants. Voyez-vous? Eh bien, si nous mettons les deux portraits ensemble, nous voyons que l'un est aux antipodes de l'autre, oui ou non? L'un est à l'opposé de l'autre. Quel est le portrait du méchant? Eh bien, il nous est dit, nous avons lu très rapidement, les méchants connaissent la prospérité. Ah, c'est la Bible qui le dit, hein? Oui ou non? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, prospèrent. C'est la Bible qui le dit, hein? Je le dis parce que nous devons casser une certaine pensée qui a tendance à lier la prospérité matérielle, financière, l'ascension sociale à la bénédiction forcément. On peut utiliser des mécanismes corrompus et on peut utiliser toutes sortes d'artifices et arriver un jour à être au sommet de la société, oui ou non? Arriver un jour à gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous regardez, si vous lisez ou vous avez déjà eu à lire le magazine Forbes, qui trouve un malin plaisir de nous détailler les hommes les plus fortunés, voyez-vous? Eh bien, vous verrez que parmi ces gens-là, je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens, oui ou non. Ce sont des gens, comme nous venons de les lire, qui connaissent la prospérité. Leur corps est replet, grassouillé. Voyez-vous? Ils jouissent de la bonne santé. Il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans, hein? Voyez? Ces gens se dotent de tous les meilleurs médecins qui soient, des grands spécialistes pour veiller sur eux. Rien ne le tourmente. Ils n'ont pas beaucoup d'inquiétudes. On pense comment je vais terminer mon chantier. N'est-ce pas? Ici à l'église, je passe 2 heures et des fois de nuit, je me réveille. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi faire pour essayer de répondre aux besoins qui se posent avec acuité? Celui donc d'agrandir, de rénover, d'avoir un temple, un auditorium agréable où chacun pourrait venir s'asseoir et louer le Seigneur. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est rien du tout, hein. Il y en a même qui ont tellement de l'argent qu'ils ont fini par faire hériter leur chien. Formidable. terrible. Mais il faut que des choses pareilles arrivent pour que nous réalisions, mes amis, la corruption de notre monde. Voyez-vous? Ils sont souvent tranquilles. Ils ne sont pas inquiétés par quoi que ce soit. Ils accroissent leur richesse. Ils utilisent toutes sortes de moyens, mais il y en a d'autres qui travaillent, attention. Il ne faut pas croire que tous ceux qui sont fortunés sont des malhonnêtes. Il y en a qui sont devenus riches au prix de leur travail. Il ne faut pas non plus tomber dans un stéréotype, dans un cliché qui consistera à dire, tiens, il a l'argent, c'est un voleur. Non, il y en a qui sont arrivés au prix de leur sueur, des gens qui ont travaillé durement. Voyez-vous, qui ont cru, mes amis, dans la méritocratie, qui ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et un jour, ils sont arrivés, voyez, ils sont à l'abri de tant de soucis matériels, financiers, professionnels, etc. Voyez-vous, voilà le tableau que la Bible nous dresse en ce qui concerne le méchant, l'homme qui n'a rien à cirer avec Dieu, l'homme qui vit... indépendamment de la volonté de Dieu, avec un cœur altier, orgueilleux, imbu d'eux-mêmes, des gens à l'ego surdimensionné. Ça, c'est le problème. Voyez? Les gens qui pensent qu'ils connaissent tout, ils sont tout, ils sont capables de tout, il n'y a que eux qui connaissent tout. Voyez? Quand on essaye de leur demander de se retrouver autour d'une table pour parler, trouver des solutions, ils pensent que non. Et ils n'ont pas besoin de ça. Qu'on leur laisse seuls et puis diriger. Attention. Voyez. D'ailleurs, quelqu'un a dit, les plus grands présidents, les plus grands chefs d'État, les hommes le plus, les dirigeants qui avancent, qui dirigent de manière efficace, sont ceux qui sont entourés des bons conseillers. Oui ou non? Voilà. Donc, nous devons comprendre cela. Alors, quand on prend ce portrait du méchant et qu'on le met à côté du portrait du juste, oh, quel fossé entre les deux, oui ou non? Quel fossé? Le juste, eh bien, lui-même le reconnaît, mes amis. Il est constamment frappé. Il passe constamment par des temps d'épreuve. La souffrance est quelque chose qui l'accompagne. Il n'est pas à l'abri de soucis, pas du tout. Il doit se battre. Oui, parce que lui, il est appelé à vivre et à marcher par la foi. Souvent dans le creux de la vague. Voyez-vous? Quand on voit, on compare tout cela, c'est-à-dire le portrait du juste, par rapport à l'image qui est véhiculée dans certains milieux chrétiens, en ce qui concerne le chrétien, c'est-à-dire le chrétien doit être un homme, eh bien, qui est constamment entouré de bénédictions. Le chrétien devrait être quelqu'un qui prospère à tous égards. Voyez-vous? Oui, on peut connaître la prospérité, mais attention, attention. De croire que lorsqu'on est en Christ, c'est fini, on ne peut plus tomber malade. Ça, c'est que l'évangile, ça. On ne peut plus passer par une crise financière. Voyez-vous? C'est parce qu'il y a une telle confusion que les gens ayant été formatés par cette fausse vision de la vie chrétienne, à chaque fois que ces gens passent par des moments difficiles, il faut absolument trouver un bouc émissaire. Oui ou non? Pourquoi cela m'arrive? Ah, peut-être que je n'ai pas prié assez. Peut-être que je n'ai pas jeûné assez. Peut-être que depuis quelque temps, il y a une action de sorcière sur ma vie. Voyez-vous? Parce que les gens ont été influencés par cette vision-là, qui, à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, ils se lèvent pour aller chercher des solutions auprès des prophètes, auprès des visionnaires, auprès de ceci ou de cela. Mes amis, le portrait du juste ici nous montre que le juste, eh bien, n'est pas toujours appelé à connaître une vie de pleine bénédiction depuis le jour où il rencontre le Seigneur jusqu'à ce qu'il passe dans l'éternité. Chacun de nous, à son niveau, a toujours des défis à relever, oui ou non? Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, mes amis, est confronté à des problèmes Vous pouvez voir quelqu'un en disant, « Oh, mais lui, c'est un grand cadre. Hein? Il travaille où? Oh, avec les Anglais, dans les mines. Oh là là, ces gens-là ont beaucoup d'argent. » OK, il peut être cadre. Il a l'argent, mais il a des problèmes aussi. Hein? Oui ou non? Il a des problèmes, ce n'est pas parce qu'il roule dans une belle voiture, ce n'est pas parce qu'il touche 6 000 $ par mois que c'est fini, il serait immunisé contre les problèmes. D'ailleurs, ici, chez nous, à chaque fois que cela arrive, toute la famille se lève et tend la main. Il y en a qui ont des problèmes sérieux, ils doivent se battre tout le temps avec leur GSM, car c'est des appels venant de partout. Tonton, tatata. Grand frère, tatata. Tantine, oui, que de demandes. Oui. Il y en a qui dépriment, hein? Donc, nous avons là un portrait du juste qui est en flagrant contraste avec le portrait du juste tel que certains essayent de nous le peindre au travers de toutes sortes d'enseignements qui tournent tous autour de la notion de prospérité matérielle. Mais la Bible est claire. Et à côté de ces deux portraits, la parole de Dieu met en évidence quelques thèmes importants. Je souligne cela pour nous permettre de comprendre ce qui va suivre. Certes, le juste, plutôt le méchant prospère, mais sa prospérité est éphémère, elle est temporaire, n'est-ce pas? Tandis que la récompense du juste, elle est éternelle. Alléluia. Il y a d'un côté un bonheur éphémère, un bonheur temporel, et de l'autre côté une récompense éternelle. Voyez-vous? La récompense éternelle du juste. Voyez. Le psalmiste a même été tenté, lui-même le dit. À un moment, il se retrouvait en train de jalouser les méchants. Le juste se posait des questions en disant, mais comment est-ce possible que moi qui fais tout pour vivre dans la sainteté, moi qui fais tout pour rester fidèle au Seigneur, je fais constamment l'objet de toutes sortes d'attaques. Et lui qui n'a rien à voir avec Dieu, lui qui nage dans la corruption, lui duquel ou dont il est de notoriété publique, que c'est un menteur, un trompeur, c'est un... Bref, il a tous les défauts du monde, mais lui prospère. Tout ce qu'il entreprend entre ses mains prospère. Mais moi, je suis constamment frappé. Je me retrouve tout le temps dans l'œil du cyclone, de la tempête, des épreuves. Vous voyez? Le juste, à un moment, a failli tomber dans le piège. La richesse des méchants étant si attirante qu'il a fini par souhaiter être à leur place, mais jusqu'à ce qu'il entre dans la présence du Seigneur. Et là, il a compris le sort final qui est réservé à ce méchant-là. Le sort final qui est réservé à tout celui qui vit, et ce, quelle que soit sa condition sociale, sa prospérité matérielle, financière ou autre, mais qui vit sans tenir compte de Dieu, eh bien, le sort final, c'est quoi? C'est le jugement, c'est la condamnation et la ruine éternelle. Mais le juste, lui, doit se battre. Oui, il se bat pour un temps. La félicité qui l'attend, eh bien, est une félicité éternelle. Alléluia. Mes amis, peu importe notre condition sociale, peu importe ce que nous sommes aujourd'hui, peu importe la place que nous occupons dans la société, peu importe, mes amis, la place qui nous est assignée dans notre famille, peu importe, mes amis, ce que nous sommes aux yeux de la société, ce qui est important, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et par rapport à Dieu, nous sommes de justes et nous jouissons d'une valeur inestimable. Alléluia. Peu importe ce que nous sommes sur le plan horizontal, conditions sociales, intellectuelles, professionnelles ou autres, ce qui est important, c'est ce que nous sommes sur le plan vertical. Alléluia. Ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Car de par notre position en Christ, nous sommes des justes et nous avons de la valeur. même si le monde dans lequel nous vivons, eh bien, a tendance à ignorer cette valeur. Mais c'est important que vous le sachiez, que vous compreniez que là où vous êtes, peu importe qui vous êtes, dès lors que vous êtes en Christ, eh bien, vous êtes une bénédiction pour les autres. Par vous, au travers de vous, des gens vont connaître l'élévation. Par vous, au travers de vous, Dieu va arrêter le mal. Combien de gens jouissent de la protection de juste? C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, bats-toi. Ce n'est pas parce que la tempête s'ouvre de plus en plus fort qu'il faille quitter en disant c'est fini, je n'en peux plus, je pars. Seigneur, trouve-moi un lieu où je suis tranquille. Dieu sait et il sait pourquoi il te maintient encore là-bas. Tu ne peux pas savoir le rôle que tu joues. Tu es la lumière du monde. Au sein de ces ténèbres, eh bien par toi, Jésus arrête l'influence de la corruption. Jésus arrête l'immoralité. Jésus arrête la méchanceté. Tu as de la valeur, mon frère et ma sœur. Tu ne dois pas t'évaluer à l'aune du standard des hommes. Dans ce monde, est grand celui qui occupe la place qui est au-dessus de tous. Est grand celui qui a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Est grand celui qui a beaucoup de... qui jouit d'une grande notoriété ou célébrité. Voyez-vous, ça, ce sont les valeurs du monde. Et nous n'avons que faire de tout cela. Notre grandeur est en Dieu. Alléluia. Nous pouvons être aux yeux des uns, voyez-vous, simplement un étudiant, sans rien de plus. Mais cet étudiant est le temple du Saint-Esprit. Cet étudiant, eh bien, abrite la présence de Dieu. Et sa présence dans cet amphithéâtre est déjà une bénédiction. Quand je regarde, mes amis, à notre ville de Kinshasa, et à la manière dont les gens conduisent, quand je regarde tout cela et quand je réalise qu'il n'y a pas de mort à chaque instant, certes, il arrive, hélas, que des gens meurent dans des accidents, nos routes sont de plus en plus arrangées, voyez-vous, mais malheureusement, l'immaturité, l'irresponsabilité, le désordre qu'il y a dans la tête des gens font que ces gens-là roulent n'importe comment et transforment nos routes en des routes accidentogènes. Mais malgré tout cela, on n'a pas des morts tout le temps. Vous pensez que cela est dû simplement au fait que, bon, les gens sont prudents, il y a quelqu'un qui veille. Parce qu'il y a de justes dans des taxibus, dans des bus, dans des taxis, dans des voitures privées qui prennent la route à cause d'eux. Le ciel est sur terre. Par eux, le ciel est sur nos routes. Et ainsi les gens jouissent de la protection que Dieu leur accorde au travers des justes que nous sommes. Gloire au Seigneur. Et quelquefois je vois certains chauffards marchent et secoués. Après je dis, Seigneur, ils ne savent pas. Vous voyez? Que si on enlevait tous ceux qui prient, si par un miracle, tout le monde quittait Kinshasa, je vais vous dire une chose, il y aurait des morts tous les jours, chaque instant. Parce que quand je vois, même sur le boulevard, tu vois les gens traverser, avec des femmes, avec les enfants, quand tu vois des gens qui prennent le sens unique, ou les routes dans le sens inverse, c'est incroyable. Hein? Ouais. Et ils ne se gênent même pas. Ils ne se gênent pas. C'est pourquoi il faut d'abord... Je n'ai pas oublié ma prédication sur le chantier suprême. J'attends de terminer ce programme de tous. Je reviendrai là-dessus. Car avec ça, avec une telle mentalité, quand bien même le Seigneur, dans son amour pour Kinshasa, enverrait une légion d'anges pour construire la plus belle cité, les plus beaux immeubles qu'il y a sur cette terre, voyez-vous, et qu'il nous confierait ces immeubles-là, si la mentalité ne change pas, au bout de 6 mois, n'y aurait plus. Les gens prendraient et les bacs de toilettes et les robinets. Mais oui, il faut se dire la vérité. Le problème se trouve là. Et quelquefois, quand je vois des gens qui se battent, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vouloir assumer une quelconque responsabilité politique ou des députés. Mais si ceux qui sont là, eh bien, sont des gens qui n'ont rien, qui ne veulent rien comprendre, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez confier ces gens-là à Obama. Au bout de 6 mois, il va déprimer. Il va partir. C'est pourquoi nous devons prier pour nos dirigeants. Ne tombez pas dans ce travers qui consiste toujours à parler du mal. Voyez, vous pensez que si on vous donnait la gestion de ce pays, ça irait comme ça par enchantement? Il y en a qui ont déliré et qui... Donc, le juste, souvent maltraité, et pourtant, leur présence est déjà une portion du ciel sur terre. Alléluia. Quelle que soit notre condition, qui que nous soyons, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. La parole de Dieu déclare que c'est par la bouche d'un homme juste que la bénédiction se répand sur la ville. Quand les justes sont heureux, écoutez ce que la Bible dit dans Proverbes. Quand les justes sont heureux, quand ils servent le Seigneur, sans qu'ils soient inquiétés par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, quand les justes sont heureux, eh bien, la ville se réjouit. La ville exulte. Alléluia. La ville est dans la joie. Voyez-vous? Ce qui apporte la joie à la ville, ce n'est pas le nombre d'ingandas. Ce n'est pas parce qu'il y a autant d'orchestres qui chaque soir, eh bien, font des concerts. Oui, il y a une certaine joie, mais une joie factice, une joie éphémère. Ouais, dans ce milieu-là. Et après le concert, ils retournent tous. Il faut le voir quand ils retournent là. Voyez, ils insultent les gens, ils crachent sur des gens. Et pourtant, quand on le voyait sur la piste, on pensait que c'était dangereux. La parole de Dieu est claire. Lorsque le juste, lorsque l'église de Jésus peut servir son Dieu sans être tourmenté, sans être inquiété, eh bien, la Bible nous dit, Dieu envoie la joie sur la ville. Non seulement, il envoie la joie sur la ville. La Bible nous dit, par la bénédiction de juste, la ville se lève. Alléluia. Oh, que Dieu multiplie le nombre de justes dans notre ville de Kinshasa. Que Dieu fasse en sorte que son église prêche la parole de Dieu. Que les gens se convertissent. Qu'ils viennent des justes. Car là où il y a un juste, là il y a Dieu. Alléluia. Là où il y a un juste, là mes amis, il y a une portion du ciel. Là il y a la lumière. Là il y a le sel de la terre. Qui lutte contre la corruption. Voyez-vous? Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas t'imaginer le bienfait que tu apportes à ta famille. Même si ta famille, dans la plupart des cas, ne le reconnaît pas. À leurs yeux, tu n'es qu'un petit étudiant qui passe tout son temps à aller à la borne. Un exalté. Un illuminé. Voyez? Mon frère, ma sœur, là où tu travailles, les gens te méprisent. Oh, pour eux, tu n'es qu'une sœur en Christ de plus. Il est vrai qu'il y a des sœurs en Christ, hein, et sœurs en Christ. Voyez-vous, oui ou non? Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui avons abîmé l'image du chrétien. C'est comme ça qu'on tourne les pasteurs en dérision dans des théâtres... à la télévision, et certains vont même plus loin, jusqu'à jouer avec le nom du Seigneur. Attention. Attention. Nous avons des témoignages de gens qui ont cru mépriser le nom du Seigneur pour se faire de la pub. Il y en a qui n'ont pas été loin. Ils ont fini par mourir. Je ne veux pas vous donner le nom même des personnes célèbres. Il y en a un qui avait dit, grand chanteur, très célèbre, qui avait dit, dans quelques années, on parlera plus de nous, de notre groupe musical. Et le nom de Jésus sera jeté aux oubliettes. Ah oui, il avait dit ça. dans les années 70. Eh oui. Mais il avait oublié que il allait mourir sous les balles d'un fanatique, d'un de leurs fanatiques. Bah! Au début des années 80, une balle est passée, il s'est écroulé, c'était Jésus, nous sommes avec lui aujourd'hui. Quelques exemples, et puis je terminerai, nous continuerons la fin prochaine, qui montrent que nous avons de la valeur. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem et dans le pays d'Israël à l'époque. Dans le livre d'Ézéchiel, la parole de Dieu nous décrit la condition terrible, morale, spirituelle, dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu, se trouvait la ville de Jérusalem. Que ce soit le peuple, que ce soit le responsable religieux, voyez-vous, l'élite intellectuelle, que ce soit les prophètes, ceux qui devaient parler de la part du Seigneur, le sacrificateur qui devait prendre soin du rituel tel que Dieu l'avait institué, qui devait veiller sur l'application de la parole de Dieu, que ce soit les princes, c'est-à-dire les hommes politiques qui étaient chargés de diriger, eh bien, Juda, Jérusalem, de gouverner cela, eux tous, mes amis, avaient sombré dans la corruption morale et spirituelle. Si vous lisez dans Ézéchiel 22, mes amis, vous aurez là une image, vous aurez là, mes amis, une sorte de radioscopie morale et spirituelle de Jérusalem, de Juda à cette époque-là. La Bible nous dit, les prophètes, eh bien, la Bible utilise ou compare les prophètes de cette époque-là à des lions qui étaient là pour détruire. Voyez, des lions qui détruisaient les âmes. Des prophètes qui se livraient à des divinations mensongères, à des vaines visions. Des prophètes qui disaient, ainsi parle le Seigneur. Et la Bible nous dit, alors que l'Éternel n'avait rien dit, les sacrificateurs, la même chose, ils violaient la loi. Ils profanaient la maison de Dieu. Ils n'avaient aucun sens de la sainteté et de la justice de Dieu. Les princes, les dirigeants, ceux qui avaient l'impérium dans leurs mains, entre leurs mains, eh bien, ce n'était pas mieux. La Bible les compare à des loups qui étaient là pour dévorer, pour voler, pour écraser. Et le peuple lui-même, eh bien, la même chose. Le peuple s'est livré au péché, commettait toutes sortes d'exactions, toutes sortes de choses terribles, mes amis. Donc, un contexte difficile, c'était donc la confusion totale. Le chaos, l'anarchie, le pays ressemblait à une sorte de pétaudière, voyez-vous. Et à cause de cela, la catastrophe approchait, le jugement de Dieu s'approchait, mes amis, car, mes amis, chaque fois que nous faisons quelque chose, soit cela nous attire la grâce de Dieu, ou soit cela nous amène au devant de son jugement. Et croyez-moi, Dieu scrute, Dieu regarde, Dieu examine, Dieu voit tout ce que nous faisons. Et à cause de cette conduite coupable, à cause des crimes de Jérusalem, eh bien, il n'y avait pas d'autre choix que de voir la colère de Dieu éclater, de voir la justice de Dieu se manifester. Mais Dieu, dans son amour, a voulu épargner son peuple, a voulu épargner Jérusalem de la ruine et de la catastrophe qui s'approchait à petits pas, mais sûrement. Mais Israël, plutôt, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. C'est ainsi que dans Ézéchiel 22, le Seigneur dit, et met ses cris terribles, je cherche un homme juste, qui se tienne devant moi, qui intercède en faveur du pays, pour que je ne détruise pas le pays. Et résultat, Dieu lui-même dit, je n'en ai pas trouvé. Dieu voulait arrêter la catastrophe. Dieu voulait arrêter la ruine de Jérusalem. Mais il voulait le faire par un juste. Alléluia. Par un homme juste. Par une femme juste. Mais il n'en a pas trouvé. Il a fait tout le tour de Jérusalem. Il a fait tout le tour de Juda. Mes amis, personne. Personne pour arrêter ce jugement. La conséquence. Le résultat. Eh bien, c'est que quelque temps plus tard, eh bien, Jérusalem va connaître la catastrophe. C'est ce qui est arrivé en 587, lorsque Nebuchadnezzar est venu mes amis, a fait le siège de la ville sainte, eh bien, l'a fait tomber, a brûlé le temple, la ville, a pris tous les trésors, tout l'argent, toute la richesse qu'il y avait au temple, et va amener tout cela à Babylone. Et amener même l'élite. L'élite intellectuelle, religieuse, tous vont connaître la captivité. Mais Dieu voulait arrêter cela. Comment allait-il s'y prendre? Je cherche un. Aujourd'hui, il cherche encore. Tu es peut-être cet homme-là dans ta famille. Alors, ne regarde pas ce que la famille te fait. Tu es peut-être cet homme dans ton entreprise. Tu es peut-être cet homme-là, là où tu travailles. Là où tu es à l'université, là où tu es à l'école. Car en étant juste par toi, Dieu peut arrêter la catastrophe qui s'approchait tout droit de par la vie dépravée des gens. Mais à cause de ta présence, le Seigneur arrête cela. Alléluia. Mes amis, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un juste. Pourquoi? Parce que c'est par le juste qu'il arrête le jugement. Alléluia. Qu'il arrête la catastrophe. Alors mon frère et ma sœur, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ne regarde pas ta condition matérielle, à ta condition sociale, où que tu sois, quelle que soit ton appartenance ethnique. Tu peux provenir d'une ethnie qui est la plus méprisée. Tu peux provenir d'une tribu qui, quelque part, eh bien, dont on n'entend jamais parler, peu importe. Mais de l'or que tu es en Christ, eh bien, tu deviens un juste. Alléluia. Et par toi, au travers de toi, Dieu peut apporter la bénédiction dans ta tribu. Dieu peut apporter la bénédiction dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville. Alléluia. Donc, faisons tout pour demeurer en Christ, afin que nous continuions à être justes. De cette manière, nous contribuerons, mes amis, à la bénédiction des autres. Nous contribuerons à l'élévation de notre ville, à l'élévation de notre pays. Nous contribuerons à la bénédiction de tous ceux qui vivent avec nous. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, ben ça ne change rien, oui ou non? Oui ou non? Ben c'est comme ça. Eh bien, ce qui est important, c'est que nous sommes en Christ et de par notre position, nous sommes des justes. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, combien de fois nous avons été tentés de jalouser les méchants? Combien nous avons même pensé prendre leur place afin de jouir de leur prospérité. Mais comme le psalmiste, Seigneur, comme Asaph, ce matin tu nous montres que peu importe là où nous sommes, nous avons une valeur intrinsèque, nous avons un prix, nous avons un prix à tes yeux, notre valeur est inestimable. Par nous tu apportes la bénédiction sur ce monde, par nous tu arrêtes le mal un peu partout, Seigneur. Par nous, tu répands ta bonne odeur au Dieu qui apporte la vie là où il y a la mort. Alors donne-nous de ne pas céder aux sollicitations du monde, de ne pas vouloir nous compromettre afin de connaître, Seigneur, le bonheur éphémère des méchants, car ce bonheur est passager, que nous ayons nos regards fixés sur toi, car avec toi, la récompense est éternelle. Merci Jésus. Merci pour tout.
Amen, amen. Amen.